Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons vous recommander trois trucs cool en une vingtaine de minutes. Dans cette émission, on vous parle de films, de séries, de BD, de jeux vidéo, de musique, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette aventure culturelle, j'ai Jean Noël et Guillaume Vendée. Comment allez-vous messieurs?
Hello.
Très bien, bonjour Patrick.
Oui, ça va toujours bien.
Vous êtes prêt à vivre une aventure culturelle?
Oui.
C'est bien, c'est le genre d'enthousiasme qui me fait plaisir. Eh bien écoutez, je vais me lancer immédiatement avec un film qui est à la fois un film et à la fois de la bonne musique, puisqu'il s'agit de Sing Street, qui est un film sorti l'année dernière, début 2016, il y a environ un an. Et c'est un film qui est, comment dire, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, il fait partie de ces drames anglais qui sont pleins de misère et de tristesse, et on sent, alors je dis anglais mais en fait ça se passe en Irlande dans les années 80, donc vous pouvez imaginer quand on parle de misère et de tristesse, cette ambiance Dublin sous la pluie avec la classe ouvrière qui arrive pas à s'en sortir, les enfants qui sont délaissés ou maltraités par leurs parents et qui essayent de trouver un petit peu de d'échappatoire dans quelque chose. Et en l'occurrence, c'est un groupe d'enfants qui va, par une série de circonstances plus ou moins comiques, se mettre à former un groupe de musique. Et quand on parle de musique, alors je dis c'est des enfants, c'est des adolescents, hein, ils ont la quinzaine à peu près, et ils forment un groupe de musique où on va retrouver tout ce qu'on aime dans les années 80, c'est-à-dire la bonne musique des années 80. on sait que ça pouvait être parfois un petit peu hasardeux, mais donc on a ce mélange assez improbable entre misère, tristesse et comédie, émotion, enfin amour, vrai moment de légèreté, et ce chemin que parcourent les enfants, les adolescents, pour finalement réussir à se trouver plus ou moins. Et c'est un cocktail qu'on peut retrouver parfois dans les films indépendants. Je le dis souvent quand je recommande ce genre de film, mais qu'on retrouve parfois dans les films indépendants américains, où on sombre jamais dans le... Disons qu'il y a plus de misère dans celui-là que dans les films américains, mais on sombre jamais dans le vrai drame nombriliste, je dirais, du drame français. Et à chaque fois, je dis un petit peu la même chose quand je recommande ces drames indés, américains ou anglais. Je dis que pour moi, les drames français sont juste tristes, et du coup, c'est de la dépression. On a l'impression de se féliciter d'être déprimé quand on voit des drames français. Et dans ces films-là, on ne cache pas du tout ni la misère, ni la tristesse, ni le désespoir, mais par contre, on en fait quelque chose qui va porter le spectateur peut-être un petit peu et lui amener quelque chose d'autre que juste la noirceur et la pluie qui tombe sur la ville triste, quoi. Et donc le film est effectivement un excellent exemple de cette formule réussie, avec en plus non seulement ce mélange entre tristesse et rire qui est bien dosé, mais en plus tout cet enrobage musical et stylistique, je dirais, qui fera très plaisir aux gens qui ont connu les années 80. Donc c'est peut-être plus particulièrement à eux que ce film s'adresse, mais il y a un trip nostalgique qui fonctionne vraiment avec le film, et qui a, je pense, en fait je dis, c'est peut-être un petit peu pour les gens qui ont connu les années 80, mais je pense que c'est aussi pour n'importe qui aime la musique. Et quand je parle de musique, je parle pas juste de musique pop, popcorn, un petit peu facile à consommer, mais vraiment des gens qui aiment la musique. Vous savez, on a des morceaux de The Cure, de Clash, Splendo Ballet, on a Duran Duran, je crois même qu'on a du Laibach à un moment, enfin je sais plus exactement, mais c'est vraiment des trucs, c'est de la vraie musique quoi, qui reste, qui tient le poids des années. Et donc pour quelqu'un qui aime un petit peu la musique, c'est aussi intéressant d'aller explorer ça. Et puis d'une manière générale, c'est juste un bon film quoi, c'est un bon moment qu'on passe avec ces personnages. C'est un bon moment qui est parfois dur, mais qui fait passer le message qu'il veut faire passer. Donc il a vraiment toutes les qualités. Peut-être si vous n'aimez pas les films indépendants, enfin si vous n'aimez que les films d'action, c'est peut-être pas pour vous effectivement, mais c'est pas forcément le truc qu'on va regarder juste pour voir des explosions et le président des États-Unis aller tuer des aliens dans un chasseur. Même si moi j'aime beaucoup ce genre de film aussi, mais c'est pas ce trip là quoi. Et donc au départ, je me disais, je le recommande pour les fans, mais je crois que on peut le recommander à tout le monde. C'est juste un bon film, quoi. Donc je change ma recommandation. Je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Sing Street et je pense que ça sera un apprécié par à peu près n'importe qui.
Est-ce qu'on retrouve un peu les émotions des films comme Little Miss Sunshine quand on regarde ça ou
c'est exactement ce à quoi je faisais référence en fait quand je parlais des films indés américains. Alors c'est pas exactement la même chose hein, bien sûr, déjà on est en Irlande, donc c'est pas la même esthétique, c'est pas la même, et puis c'est pas le même style de réalisation, mais oui, tout à fait, on retrouve ce genre de d'ambiance, ce genre de parcours initiatique qu'on trouve dans Little Miss Sunshine, dans The Perks of Being a Wallflower, dans tous ces films-là, dans Juno, etc. Donc oui, si vous aimez ce genre de film, Sing Street, c'est pile pour vous, quoi.
Ok.
Voilà, donc c'est ma recommandation du jour. Jean, de quoi nous parles-tu ?
Alors, moi, je vais vous parler de Zai 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 Zai. Et non, je ne vais pas être dans la continuité de ce que tu viens de dire, puisque ce n'est pas une chanson, c'est une BD. Donc c'est une BD de Fab Caro à qui on doit le très récent Steak It Easy ou encore La Bredoute ou encore L'Infiniment Moyen. Donc rien que ces trois titres, ça nous donne une assez bonne idée des goûts de l'auteur en matière d'humour. Hein. Le pitch, c'est que voilà, dans un monde, un monde comme le nôtre, un homme se rend compte au moment de payer ses courses qu'il a oublié sa carte de fidélité du magasin dans son autre pantalon qui est au sale. Et donc, c'est un véritable drame. Donc, s'ensuit une véritable cavale. Donc, l'homme s'enfuit en emportant avec lui un poireau. Le vigile, il s'enfuit parce que le vigile l'a menacé de faire une roulade arrière s'il ne se calmait pas.
Ça commence voilà. Bien.
Et de là, eh bien, on va suivre la cavale de cet homme qui est juste poursuivi pour avoir oublié sa carte de fidélité du magasin.
Mais est-ce qu'il a volé le poireau ou c'est juste que comme il l'avait on l'a menacé de faire une roulade arrière?
Ah non, du coup, comme le vigile s'est approché et lui sentait le truc qu'il allait se faire capturer, mis en détention et tout ça, du coup, il a pris un poireau pour menacer tout le monde et donc le vigile l'a menacé de faire une roulade derrière et là, il s'est enfui.
Ah oui, non, mais effectivement, voilà. Là, c'est logique, je comprends mieux, oui. Voilà, tu l'avais pas bien expliqué au début, hein, c'est pour ça.
Alors, malgré tout ce que je viens de dire, c'est une œuvre vraiment intelligente. C'est très, très drôle et alors, je suis pas un très, très grand lecteur de BD, mais donc j'en ai déjà lu et j'ai jamais autant ri avec une BD dans les mains. C'est très très rare les fois où il n'y a pas une double page qui m'a au moins provoqué un rictus zygomatique. Mais on va dire sur la moitié des doubles pages, j'ai eu au moins un éclat de rire. Rien que le fait d'aller dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault, devient drôle. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà. Juste pour pour donner, parce qu'il n'y a pas un seul humour dans cette BI, il n'y a pas un seul type d'humour, mais juste pour en faire un, là je vais juste vous spoiler une page, mais tant pis, parce que ça vaut le coup. Donc le type d'humour qu'on peut rencontrer, donc là il y a une jeune mère et son jeune fils, donc qui a 6-7 ans, et donc la maman dit « Pierre-Kevin, où vas-tu ? Je vais aller jouer dehors avec Jean-Hugo. Tu sais, ces temps-ci, je préférais que tu restes dedans. Mais pourquoi ? Avec ce voyou qui rôde, imagine qu'il te kidnappe et te séquestre dans une cave en te mettant des objets dans les fesses. Mais quoi comme objet ? Bah, je sais pas, des bouteilles de Perrier, par exemple. De 1,5 litre ? Et là, la mère éclate de rire. Mais non, des petites de 33 centilitres. Et Jean-Kevin, ah, mais tu m'as fait peur. Ah, mais non, quand même, 1,5 litre, tu imagines ? Donc voilà.
C'est du coup, il n'y a aucun rapport avec Joe Dassin, du coup, non ?
Alors, si, c'est ça le plus fort, mais je vais pas vous dire parce que le rapport avec Joe Dassin, il arrive à la dernière page. C'est la fin. C'est la fin de l'épilogue et le rapport avec Joe Dassin, il est là, mais je peux absolument pas en parler parce que si je commence à en parler, du coup, sur les pages d'avant, vous allez le voir venir. Mais voilà, alors faut pas se dire non plus que c'est juste de l'humour potage, pipi, caca, machin. Il y a vraiment une réflexion derrière chaque blague qui nous renvoie à une critique bien sentie de notre société française dans laquelle les auteurs de BD sont très maltraités. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs planches qui abordent le thème de manière différente, mais c'est toujours très drôle. En gros, un auteur de BD, c'est un peu comme être un chômeur, mais en pire. Donc il y a aussi en termes de traitement de sujet, par exemple la peine de mort, le traitement de l'information, les politiques, l'hystérie collective, l'hypocrisie, les relations humaines, l'hypocrisie des relations humaines, pardon. Voilà, c'est un florilège de d'absurdité, mais c'est de l'absurde qui nous renvoie à notre absurdité à nous, notre absurdité de notre société et sur la télé-réalité. Et il y a beaucoup Fab Caro, en fait, mais on sent, hein, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dedans, donc notamment parce que le statut d'auteur de BD, voilà. Mais je parlais tout à l'heure d'aller dans l'Hérault, que ça devient une aventure très rocambolesque, mais lui est originaire de l'Hérault. Dans beaucoup de ces BD, il y a beaucoup de choses. Il y a même des BD qui sont carrément autobiographiques. Et alors c'est un style graphique qui est très très épuré, très. Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Là, il y en a un peu. D'habitude, dans ce qu'il fait, il n'y en a pas. C'est du noir et blanc. Là, il y en a un peu. C'est du noir, du blanc et un peu du beige. Enfin, dites-moi parce que je suis daltonien. Alors, si vous pouvez cliquer sur le lien.
Oui, c'est une sorte de beige, effectivement. Oui.
Voilà. Ça marche. C'est pas désagréable à regarder. Moi, je suis très très difficile en termes de graphisme dans la BD. Donc c'est pas du tout difficile à regarder. Ça se lit, mais ça se lit pas. Ça se dévore. Alors ça se dévore quand tout le monde dort, parce que je vous dis. Mais vraiment, je rigolais quoi. J'ai jamais autant ri. Et donc c'est édité chez Six Pieds Sous Terre. Ça fait 72 pages. On sent que c'est très personnel. Voilà, c'est très personnel. Il faut s'attendre à ça, mais c'est excessivement drôle. C'est pas pour tout le monde. Alors j'ai mis pour presque tous. Pourquoi pour presque tous ? Parce que voilà, il y a des chances que l'humour ça accroche pas. Moi, je pensais que c'était le truc le plus drôle de cul que j'ai arrivé. Voilà, je le donne à ma femme, je fais tiens, lis-le, c'est excellent. Et elle revient me voir 45 minutes plus tard, elle me fait ouais, bof.
Et là, tu étais désespéré.
Mais ouais, d'accord, mais je l'ai regardé, je fais mais non, mais attends, mais non, c'est pas possible. Et puis elle me dit ouais, dans l'absurde, quand même, on fait mieux. Hein.
D'accord, bah écoute, le passage que voilà. Tu as lu était quand même assez drôle, j'ai trouvé, donc peut-être que je serai meilleur client que ta femme. Merci, donc ça s'appelle Zai 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 Zai, et c'est voilà. Une BD que tu recommandes à presque tous.
Voilà, à presque tous.
Très bien, Guillaume, à ton tour.
On va changer radicalement d'univers, au moins pour chacune de nos sections de Positron, c'est bien, c'est assez complémentaire, j'ai l'impression. Je voudrais vous faire découvrir, si jamais vous le connaissez pas, évidemment, Interstellar, qui est un film assez récent, hein, il date de 2014, qui est un film qui a été produit, écrit et réalisé par Monsieur Christopher Nolan. Je vais pas vous mentir, je suis pas un cinéphile hyper averti, je pense que dans l'échelle des gens que j'ai dans mon entourage, je vais pas souvent au ciné. C'est d'ailleurs un truc qui m'agace un peu parce que à chaque fois je me retrouve derrière le gros chevelu et à côté du monsieur qui mange ses popcorn et j'ai l'impression d'être un petit peu asocial à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques films que je vais voir et par contre je suis très bon public, donc en général je repars content. Là c'est par contre la première fois où je suis reparti non seulement content mais j'ai pris une gifle et je suis passé par énormément d'émotions. Il y a même des passages du film où j'ai carrément chialé tout seul, ce qui m'était jamais arrivé au cinéma. Alors c'est pas un film dramatique du tout, c'est un film de science-fiction qui se passe dans un futur pas très lointain. Je vous dépeins très rapidement le contexte. Il y a une crise alimentaire très très poussée, il y a une refonte totale de l'agriculture, il y a les céréales qui meurent les unes après les autres, il y a pas mal de complexes, notamment au niveau des États-Unis par rapport à l'exploration spatiale. On sait pas d'ailleurs tout ce qui s'est passé au niveau de la recherche spatiale, mais on sait qu'ils en sont arrivés à un stade où ils enseignent carrément à l'école que les missions Apollo n'ont pas eu lieu et que ça a été simplement des prétextes pour faire investir à l'URSS des projets concurrents et donc les ruiner. Donc tout ça est évidemment une vue de la situation un peu catastrophique vers laquelle se déroule l'humanité. Et dans ce contexte, on suit Cooper, qui est un ancien pilote de la NASA qui est devenu agriculteur, c'est dire, et qui du coup, fait comme pas mal d'agriculteurs, cultive une des rares céréales qui survit. Il y a un événement qui arrive, alors on peut repréciser aussi, puisque les liens qu'il y a avec les personnages, notamment de sa famille, sont très forts, je ne vais pas les détailler, mais au début du film, on le voit vivre avec sa fille et son fils, et on sent qu'il y a une relation bien particulière à laquelle on s'attache, qui va nous suivre beaucoup émotionnellement dans le film.
Raconte pas trop.
J'essaye justement de mesurer ce que je dois dire et ce que je dois pas dire, mais je pense que je vais très très vite m'arrêter sur le pitch, juste pour dire qu'il y a un événement qui va arriver et qui va évidemment bousculer un petit peu sa vie et qui va faire dérouler tout le film. Évidemment, le film se passe aussi beaucoup par la suite quand même. On peut le dire dans l'espace, même si ça paraît évident. Donc, je vais pas en dire plus effectivement sur l'histoire parce que c'est vraiment une expérience à vivre. On passe à travers des émotions complètement incroyable. Moi, j'ai rarement vécu ça dans un film. C'est quelque chose qui donne la chair de poule, qui fait peur, qui intrigue, qui passionne. Et ça fait partie de ces films. Quand on a fini de le voir, moi, en tout cas, ça m'a fait ça. J'ai eu envie de le voir d'autres fois. Et c'est assez régulièrement que j'ai envie de le revoir et d'en parler avec les gens avec qui je peux partager le film, parce que c'est quelque chose qui laisse place à interprétation, à débat, à vision de la chose. Donc voilà, je vais pas plus détailler que ça le contenu du film. On peut juste repréciser qu'il y a eu une recherche scientifique vachement poussée, puisque Nolan s'est appuyé sur un monsieur qui est physicien et qui a beaucoup travaillé sur l'astrophysique, qui s'appelle Kip Thorne, et ils ont bossé ensemble ce film de manière à ce qu'il soit le plus crédible scientifiquement. Quand vous le regarderez, vous pourrez peut-être sourire si vous vous rappelez de ce que je viens de dire, mais le plus crédible scientifiquement. Et notamment dans la modélisation, il y a des choses qui ont servi la science après derrière dans la modélisation de certains éléments de l'espace. Donc vraiment pour moi c'est un film unique, c'est peut-être même à ce stade un de mes films préférés qui m'a engendré énormément d'émotions. Et si jamais vous avez eu le malheur de passer à côté, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. J'oserais quand même pas le recommander à tout le monde parce qu'il peut être long, et si on n'aime pas la science-fiction, on peut souffrir. Moi, pour faire le parallèle avec toi, Jean, je l'ai fait regarder à ma copine, et elle a pas forcément autant apprécié que moi, et elle a même trouvé ça un peu long, et je sais que plusieurs personnes l'ont trouvé assez long.
C'est vrai que ça peut laisser les gens... En fait, Nolan, il travaille énormément son propos, il est hyper soigné et il a une qualité, là encore, on parlait de qualité artistique, je pense, assez indéniable. Mais il y a des gens... En fait, je pense que c'est un petit peu Inception. C'est pas du tout le même propos, mais les gens qui ont été frustrés par Inception, je pense qu'ils seront frustrés aussi par Interstellar. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai trouvé que c'était une vraie expérience. Et c'est un peu, je pense, pour compléter ce que tu dis, c'est un petit peu ce qu'on cherche dans le beau cinéma, entre guillemets, c'est-à-dire un voyage. Et là, on a vraiment un voyage dans ce film. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, c'est en tout cas ce que j'ai apprécié. C'était un dépaysement assez fou. Et c'est... Tu es transporté dans l'imagination de quelqu'un. Et il y a tous les films ne réussissent pas à faire ça, et celui-là y arrive très très bien. C'est la, je pense, la meilleure qualité de Nolan. Il t'immerge dans son esprit, dans son imaginaire. Donc oui, en ce sens, je trouve que c'est vraiment une réussite le film. Ensuite, on peut ne pas forcément adorer ce qu'on y trouve, mais
moi, on me l'avait vendu comme tu viens de le vendre un petit peu, Guillaume, avec l'aspect scientifique et tout ça. Et donc, à cause de ça, je l'ai moins apprécié que j'aurais dû. Si on me l'avait vendu comme voilà, c'est la vision de l'imaginaire de Nolan, etc. Là, je serais beaucoup plus rentré dedans. Mais là, on m'a dit ouais, c'est vachement documenté, c'est le mieux qu'on puisse faire, machin. Et quand j'ai vu certaines choses, ça m'a sorti du truc parce que j'ai dit non, mais non, c'est pas possible.
Ouais, donc t'as vu que les incohérences,
et,
quoi.
Voilà, et du coup, après, avec mon beau-frère qui lui bosse dans la physique, on a eu alors ça pour discuter, on a discuté, hein. Et donc on a eu d'énormes discussions autour du film, justement à cause de ces petites incohérences qui font. On est d'accord, hein, c'est rien dans le film, mais on me l'a tellement vendu comme truc scientifique que du coup j'étais ça m'a sorti plus que ça n'aurait dû.
Je vais peut-être conclure par deux points. Tu parles de voyage, Patrick. Il y a une espèce de symbiose que je retrouve pas toujours dans les films là-dedans, entre le film en tant que tel et la musique de Hans Zimmer, qui est assez, enfin, je trouve en tout cas, qui est assez différente de ce qu'on pouvait entendre avant de Hans Zimmer. Et la mélodie, moi, me passionne. Je pense qu'évidemment, il y a un truc qui entraîne l'autre, c'est que quand on aime le film, évidemment, on aime aussi probablement la musique. Moi, je me complais à me replonger dedans de temps en temps. Donc même la bande originale, j'irai la recommander. Et puis pour le petit clin d'œil, écoutez un ancien épisode de Podcast Science, là, les copains de Podcast Science, où ils avaient un peu détaillé justement les aspects scientifiques d'Interstellar, et ils revenaient justement sur ces éléments-là. À écouter évidemment après avoir vu le film, évidemment.
Évidemment. D'accord, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette recommandation. Et déjà, c'est la fin de l'épisode à laquelle on arrive.
Mais
ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas, puisque nous revenons dans 15 jours à peine pour un nouvel épisode.
C'est long.
C'est long, mais c'est bon. Mais bon, si entre-temps vous en voulez plus, vous pouvez aller retrouver nos co-animateurs aux endroits dont ils vont vous parler tout de suite, à commencer par Guillaume.
Alors, vous me retrouvez sur Twitter, sur ma page Facebook, vous cherchez Guillaume Vendée. Un petit clin d'œil aussi sur, comme je le disais il y a 15 jours dans l'épisode précédent, sur mon streetcast, La Voix de Guillaume. Vous le retrouverez sur tous les catalogues de podcasts divers et variés.
Magnifique, merci Guillaume. Et Jean ?
Eh bien, moi, sur les réseaux aussi, donc vous tapez Papa Quoi Tu Joues ou Papa Podcast, papapodcast.fr étant le site internet sur lequel il y a mes podcasts. Et comme j'ai parlé de BD, il y a aussi un de mes co-animateurs, David, qui lance son podcast sur la BD. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, donc allez sur papapodcast.fr et vous trouverez tous les liens qui vont bien.
Magnifique, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook, et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. On parle de tech, de jeux vidéo, on vous résume l'actu de tout ça régulièrement. Vous retrouvez toutes ces émissions sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours donc pour le troisième épisode de cette session de Positron. Ciao à tous. I'm
Bon, 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 bon